conférence privée du Père Saint-Joseph le 7 novembre.
Est-ce que le Père Maître n'est pas là, n'est-ce pas? Je prends la place du Père Maître, hein, vous comprenez bien. Je ne logerai, je me mettrai pas dans ça. Je reste au même endroit, mais c'est entendu comme ça. Évidemment, je ne serai pas tout le temps là, malheureusement, mais j'essaierai d'être le plus possible. Nous avons commencé ensemble de réfléchir sur ce grand mystère de nos sacrements et le sacrement de l'Eucharistie, puisque c'est l'Eucharistie qui donne la signification à toute la sacramentalité, à tout l'ensemble des sacrements. Vous pouvez revenir toujours du reste et comprendre comment Jésus a voulu être le prophète du mystère de l'Eucharistie. C'est peut-être un des aspects qu'il est particulièrement important de regarder, parce que ça nous aide à mieux entrer dans l'intention même du mystère de l'Eucharistie. C'est le grand chapitre 6 de Saint Jean. Et ce chapitre 6 représente, je ne dis pas un des sommets, parce que c'est très difficile. On serait tenté de dire que chacun des grands chapitres dans Saint Jean est un sommet, mais il est sûrement, pour nous, une très grande lumière. Nous voyons d'abord la pédagogie du Christ pour préparer le grand discours du pain de vie et pour préparer Jésus qui et prophète du mystère de l'Eucharistie. Et cette pédagogie, elle est très simple. C'est la pédagogie la plus simple qui soit, faire route avec tous ces braves gens, toute la journée. Les premiers qui sont fatigués, ce sont les familiers du Christ. C'est toujours comme ça. C'est les sacristains. Les premiers qui sont familiers, pas les sacristains d'ici, c'est sûr, mais les bons vieux sacristains, vous voyez, qui considèrent que l'église, ça fait partie de leur maison, et puis ils ont les clés de l'église, et c'est eux qui tiennent tout. Alors, on voit très bien l'attitude de Philippe et d'André. Il y a un petit murmure, très curieux de voir ça. Parce qu'ils ont faim, voulez-vous. Quand on a faim, on commence à murmurer. Quand on a bien mangé, bien bu, on n'a plus qu'à dormir. On n'a plus le temps de murmurer. On voit très bien ce petit murmure de Philippe et d'André. Ils louchent sur la sacoche du petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. C'est très éloquent, ça. Moi, ça me semble quelque chose de très étonnant. L'enfant, lui, ne pense pas à manger parce qu'on lui raconte des histoires. Le transfert, hein. C'est facile. On fait passer comme ça quelque chose en racontant des histoires. Et les apôtres racontent les histoires qu'ils ont vécues avec Jésus. Pendant un an, vous comprenez, ils peuvent en raconter. Et le gosse est content. Ils ne pensent plus à manger. Les apôtres, eux, sont déjà un peu fatigués. Vous savez, au bout d'un an de noviciat, on est un peu fatigué. On sait, ça va recommencer de la même façon. Et puis c'est tout le temps comme ça. Un peu usé. On est vite usé. C'est ça que j'appelle le sacristain. Le sacristain, il est usé de la présence de l'Eucharistie. Il s'en aperçoit plus. Il s'en aperçoit plus du tout. Alors, il fait de ses géniflexions extraordinaires. On a tous vu ça. Ces gens qui faisaient. Alors, ils sont fatigués, quoi. Philippe et André, ils sont un peu fatigués. Ils murmurent. Jésus vraiment n'a pas le sens de l'organisation. Parce que s'il avait eu le sens de l'organisation, il ne laisserait pas 5000 hommes à sa suite, sans compter les femmes et les enfants. Et faire qu'on aboutit à un lieu, on ne peut pas se nourrir. C'est vraiment un manque d'organisation. Moi, je vois très bien une grande promenade. Hein. On part tous ensemble, puis on aboutit à un désert. Hein, qu'est-ce que vous diriez? Oh, il aurait pu prévoir. Il aurait pu s'en apercevoir quand même. Hein. On voit très très bien cette espèce de mauvaise humeur. C'est toujours comme ça, le murmure. On murmure. J'aurais pu prévoir, j'aurais pu quand même être plus intelligent. Et Jésus sait très bien tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'en souffre pas. Hein. Mais Jésus sait très bien. Il les met à l'épreuve. Et ça fait partie de la préparation du mystère de l'Eucharistie. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est une préparation étonnante. La foule, elle a marché toute la journée. Elle a faim. C'est sûr, elle a faim. Les apôtres, du moins, au moins Philippe et André, ils murmurent. Vous savez ce que dit Saint Benoît à propos du murmure, hein ? Pour Saint Benoît, c'est la chose la plus terrible, le murmure. Parce que c'est nous mettre en dehors de l'action de grâce, alors qu'on devrait être toujours dans l'action de grâce. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Hein ? C'est peut-être pour ça, du reste, qu'il y a ce murmure ici, parmi les apôtres. C'est l'Eucharistie qui doit nous guérir de tous les murmures, toutes les mauvaises opinions que nous avons sur nos supérieurs, sur ceux qui sont auprès de nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus sait très bien ce qu'il fait. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus regarde cette foule et la fait asseoir. Et Jésus se sert des petits pains de cet enfant. Il les prend. Ça a dû être pour ce gosse quelque chose de merveilleux d'avoir cette espèce de face à face avec Jésus, que Jésus le regarde, parce que Jésus n'a pas pris ses pains sans le regarder, hein, et sans lui faire comprendre tout l'amour qu'il avait pour lui. Et parce que Jésus l'aimait, il pouvait lui demander l'offrande de ses petits pains. On ne peut demander l'offrande de quelque chose qui est à nous que si un très grand amour. Autrement, on ne peut pas le faire. Et Jésus réclame de ce petit l'offrande de ses pains. C'est un enfant, c'est l'enfant. Vous voyez la différence, hein ? Avec Cana, c'est les serviteurs que Jésus éprouve. Ici, c'est l'enfant. Le serviteur, il est fait pour obéir. L'enfant, il est fait pour offrir. Si vous ne revenez pas comme des petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si on ne sait pas offrir gratuitement nos petites provisions, de toutes sortes, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et si on les offre, et si on les donne, alors c'est Jésus qui les garde. Et il y a une fécondité merveilleuse. Jésus bénit ses pains et les distribue. C'est merveilleux comme préparation. Évidemment, on ne peut pas faire ça. Il faut demander aux charismatiques de faire ça. Non ? Multiplier les pains pour préparer de fait le point de vue de ce que représente cette prédication prophétique de Jésus. Et ça tourne mal. C'est ça qui est très étonnant. Jésus donne à tous, autant qu'ils veulent, autant qu'ils en ont besoin, autant qu'ils en veulent, peut-être même peut-être plus qu'ils n'en ont besoin. Les pains et les poissons. Et ce sont les apôtres qui ramassent les miettes. faut que rien ne soit perdu. Et les apôtres, en ramassant les miettes, sont en contact avec la foule. Et on voit qu'ils sont comme contaminés. Eux aussi pensent proclamer Jésus roi. On a un prophète, c'est merveilleux. Le grand miracle de la manne recommence. Et ça, c'est très important. C'est très inscrit dans le cœur du peuple d'Israël. Au désert, Dieu veillait sur son peuple comme un fiancé sur sa fiancée. Il y avait comme une tendresse particulière de Dieu. Et c'est cette grande nostalgie de la tendresse de Dieu pour son peuple qui commence à prendre possession du cœur de tous ces hommes, de toutes ces femmes et des apôtres. On va le proclamer roi, plus besoin de travailler. On a toujours de la peine à travailler, c'est sûr. Si on pouvait dire qu'à partir de ce moment, il n'y a plus de travail, et on recevra tous les jours des petits pains frais, merveilleux, les meilleurs qu'on a jamais mangés, du poisson frais, quelque chose d'extraordinaire. C'est une simple bénédiction de Jésus. Plus besoin de faire la cuisine, plus besoin de travailler. C'est donné largement et pas besoin de payer. Et Jésus s'en alla seul. Alors la première rupture, il y a une rupture qui se fait. Ça c'est très net. Il s'en alla seul de nouveau. Hein, Jean dit ça en fonction de Luc. C'est très très net ça. C'est du reste intéressant parce que ça voit combien... Au fond, Luc et Jean se tiennent. Jean dit de nouveau, non, ça n'est pas arrivé. La fois où Jésus était seul, c'est quand les apôtres sont partis. C'est pas quand Jésus est parti. C'était pour que Jésus rencontre la Samaritaine. Tandis qu'ici, il s'en alla seul. Et on sent une rupture. Jésus n'est pas d'accord. Parce qu'on veut mettre la main sur lui. Chaque fois qu'on veut mettre la main sur l'instrument de Dieu, sur l'envoyé du Père, eh bien, il y a une rupture. On ne peut recevoir pauvre, on ne peut recevoir que pauvrement un envoyé de Dieu, qui lui-même est pauvre. Dès qu'il y a un désir d'accaparement, c'est fini. Au plan spirituel, c'est comme ça. Ça, c'est une, j'allais dire, une grande loi de toute l'économie divine. C'est que Jésus, Dieu veut nous éduquer à vivre dans la gratuité, ce qui est au fond très difficile, surtout pour nous, hein, dans notre temps d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gratuité. Et on ne peut pas mener une vie surnaturelle sans le sens de la gratuité, et sans un sens très très grand de la gratuité. Or la gratuité, c'est justement... recevoir gratuitement et donner gratuitement. C'est ce que Jésus a fait, il a donné gratuitement. Et on a reçu, non pas gratuitement, mais en accaparant. Et en voulant mettre Jésus de son côté. On a tellement envie de mettre Jésus de notre côté. On est du bon côté puisque Jésus est avec nous. Et on ne s'aperçoit pas que c'est nous qui l'avons accaparé. Et donc, on n'est peut-être pas du tout du bon côté. En l'accaparant, on est du mauvais côté. Et c'est ce qui se fait qu'immédiatement, Jésus s'en va. Et les apôtres aussi sont avec la foule. Et donc, il y a quelque chose qui a fait cette rupture. Mais les apôtres, plus vite que la foule, se réveillent. Et ils partent vers Capharnaüm, la nuit. Sur le lac Tibériade. Et le vent est fort. Et donc, Il lutte. On voit très bien le travail. Vous voyez les deux purifications qui sont en nous, il ne faut jamais l'oublier. La purification de l'adoration qui nous remet dans la vérité dans laquelle nous sommes, petite créature en face de Dieu, totalement dépendant de Dieu, et le travail. Ce sont nos deux purifications, ce sont les deux activités les plus typiques de l'homme. L'adoration, c'est l'activité de l'homme religieux qui découvre sa dépendance à l'égard du Créateur, et le travail, c'est son activité la plus connaturelle, celle qui relève de son conditionnement. Quelqu'un qui doit lutter pour se nourrir, pour constamment coopérer avec notre univers. Et durant la nuit, Jésus est présent auprès des apôtres. Vous voyez, second signe, et c'est beau comment Jean, de fait, et ça c'est Jean seul qui a fait cela, et je crois que c'est comme ça que ça s'est réalisé. Les synoptiques ont séparé ces deux signes. Jean les a rassemblés parce qu'il a compris le lien qu'il y avait entre ces deux signes. Le signe de la nourriture et le signe de la présence. C'est quand même très étonnant. Et c'est la nourriture qui conduit à la présence. La présence durant la nuit, au milieu du travail. Au milieu de ce labeur, Jésus est présent, gratuitement, sans barque. Il devait être assez beau de voir Jésus marchant sur le lac, et ce lac en pleine tempête. Et dès que Jésus est là, immédiatement, on touche à la terre. Présence efficace. Une présence efficace. Vous voyez, ces trois signes, ces trois miracles. Multiplication des pains, la présence la nuit, l'efficacité de la présence. On est immédiatement au terme. Le lendemain, la foule, après avoir bien dormi, arrive à Capharnaüm. Et là, nous avons le grand discours du pain de vie. Il faut relire souvent ce grand discours du pain de vie. Parce que c'est là où Jésus lui-même nous enseigne sur la manière dont nous devons regarder le mystère de l'Eucharistie. C'est un regard prophétique de Jésus, et donc qui nous introduit lui-même dans un grand secret. Et la première chose que Jésus montre, c'est une correction fraternelle à l'égard de son peuple. Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? On lui demande des comptes. On demande des comptes à Jésus. C'est pas étonnant, ils sont restés dans la perspective de la veille. Et la perspective de la veille, il faut qu'il soit notre roi. Il faut que nous ayons la main sur lui. Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? Et alors Jésus leur répond avec autorité. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasié. Jésus, dans une correction fraternelle, montre que leur intention dans cette recherche de Jésus n'est pas pure du tout. Ils ne cherchent Jésus non, même pas à cause des signes. Jésus veut qu'on dépasse les signes, Jésus veut qu'on entre dans le mystère de la foi. Mais les signes, c'est déjà quelque chose de plus grand, parce que ça regarde l'intelligence, ça prouve qu'on recherche la vérité. Et si on recherche la vérité, c'est quand même quelque chose de grand. Tandis que rechercher Jésus uniquement parce que on a mangé du pain à satiété, du bon pain. On a pris le petit poisson autant qu'on a voulu. Ça, c'est pas très noble de rechercher Jésus uniquement à cause de ça. Et ça, ça blesse le cœur du Christ. Hein, c'est vrai, ça. Ne pas rechercher Jésus pour lui-même, mais le rechercher uniquement parce qu'il est source de bien temporel. Parce qu'il nous donne du pain sans qu'on ait à travailler. Et alors Jésus, immédiatement, après avoir fait la correction fraternelle, donne un ordre. Travaillez à acquérir non la nourriture qui périt, mais la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Jésus montre le remède. Comment enlever cette espèce de concupiscence si radicale, cette concupiscence qui consiste uniquement à penser à la nourriture. Et ne rechercher Jésus que pour cette nourriture. Jésus donne le remède. Travaillez. Je vous ai dit, le travail purifie. Le travail nous empêche de rester dans l'imaginaire. Et ça, c'est vrai. Quand on acquiert des mœurs de travailleurs, qu'il s'agisse d'un travail manuel ou d'un travail intellectuel, si on sait travailler en prenant les méthodes nécessaires qui nous aident à travailler, on purifie notre imaginaire, on purifie le repliement qu'il y a sur nous. Ce repliement qu'il y a sur nous et l'imaginaire font de nous des êtres dilettantes. C'est terrible d'être dilettante, parce qu'il corrompt les biens de Dieu. C'est la chose la plus terrible. Le dilettantisme à l'intérieur de la vie religieuse, c'est la chose la plus terrible. Parce que c'est justement oublier qu'on est des serviteurs de Dieu. Il faut s'apercevoir du dilettantisme qui peut encore exister dans notre vie. Parce que dans le monde, le dilettantisme, c'est très bien vu. Parce qu'on a l'air justement d'être très à l'aise pour une quantité de choses. C'est très très bien. Tandis que dans la vie religieuse, évidemment, le dilettantisme, c'est la chose la plus terrible. Oui, alors on ne fait rien de bien. On ne veut pas travailler correctement. On ne demande même pas la manière dont il faut travailler correctement. On fait de grosses erreurs dans son travail. Oh, ça n'a pas d'importance. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Très bien, on l'apprend. On n'a jamais fait de sa vie de la philosophie, il faut apprendre à en faire. On n'a jamais fait de sa vie de la théologie, il faut apprendre à en faire. Il faut apprendre à travailler. Il faut apprendre le travail manuel. C'est très important, ça. Et on voit très bien ici comment Jésus veut, de fait, rejeter ce dilettantisme. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Il faut travailler en chrétien. Et travailler en chrétien, c'est travailler non pas pour le but immédiat, la nourriture, le pain de chaque jour, mais travailler pour l'Eucharistie. Offrir le fruit de notre labeur pour être la matière du sacrement de l'Eucharistie. Vous voyez comme c'est grand la manière dont Jésus aborde le mystère de l'Eucharistie. Il a préparé par des signes, par des miracles, mais dans son enseignement, il montre tout de suite comment nous pouvons rejoindre le mystère de l'Eucharistie par notre travail. Par un travail qui est ordonné à ce mystère, à cette nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, celle que le Fils de l'homme nous donne, car c'est lui que le Père Dieu a marqué d'un sceau. On l'oublie beaucoup trop, hein, de faire cette relation entre le travail et le mystère de l'Eucharistie. Et c'est pourtant si important, ça. C'est la première chose que Jésus souligne. Et la première chose que Jésus souligne en face de ce dilettantisme, en face de ce désir de ne plus travailler, Jésus souligne tout de suite ça. C'est comme cela qu'on va pouvoir corriger ce dilettantisme qui est en nous et qui nous empêche d'être pleinement et totalement donnés. Et lui dire donc, que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Ah, ils ont bien compris qu'ils étaient directement intéressés. Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Jésus répondit et leur dit, l'œuvre de Dieu, ergon tout est où, hein ? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et lui dire alors, quel signe fais-tu donc, toi, pour que nous voyions et que nous te croyons ? À quoi travailles-tu ? Nos pères ont mangé la manne au désert, selon qu'il se trouve écrit, il leur a donné à manger un pain venu du ciel. Jésus leur dit donc, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, c'est mon Père qui vous le donne. Le pain qui vient du ciel, le véritable, c'est le pain de Dieu. Je crois ce petit passage très important pour nous, hein. Donc après nous avoir montré que travailler en enfant de Dieu, c'est travailler pour l'Eucharistie. Chaque fois que nous assistons à la messe, nous devons apporter le fruit de notre travail. Il ne faut pas l'oublier, ça. On ne doit pas arriver à la messe, les bras ballants, hein. Vous voyez, spirituellement, hein. Les bras ballants, c'est tout. Non, ça se prépare. Et ça se prépare par le travail. Le travail qui nous est demandé. Le travail matériel, le travail intellectuel, c'est une manière magnifique de nous préparer à l'Eucharistie. C'est la manière dont Jésus lui-même nous montre. Hein. C'est lui qui nous montre ça. Au fond, l'Eucharistie réclame de nous des mœurs de travailleurs. Et il faut que nous ayons ce sens-là, autrement non. L'Eucharistie ne nous sera pas donnée pleinement et totalement, parce qu'on ne sera pas disposé. C'est très important pour nous aider, voyez, à entrer pleinement dans ce que représentent ces exigences du travail. Ordonner à l'Eucharistie. Ne regardons pas uniquement l'intérêt du travail que nous faisons, la valeur en soi du travail que nous faisons, ça c'est travailler pour le pain qui passe, pour le pain qui nous nourrit. Il faut travailler pour quelque chose de plus. Il faut travailler pour un mystère qui nous dépasse complètement. Par l'Eucharistie, Jésus vient au-devant de nous. Par le travail, nous allons vers lui. Et nous nous mettons dans l'attitude du pauvre. Les pauvres savent ce que c'est que le travail, parce qu'ils sont obligés de travailler. Et ils acquièrent de mœurs de travailleurs. Si on est plus pauvre intérieurement, si on comprend mieux ce que c'est que la pauvreté de fait et la pauvreté spirituelle, alors à ce moment-là, on comprend la nécessité du travail. Et on comprend que l'Eucharistie nous est donnée pour que justement notre travail prenne toute sa signification. Et là, quelque chose de très important pour nous, je crois capital, parce que c'est tellement important d'acquérir des mœurs de travailleurs pour ne pas perdre du temps, pour ne pas tomber dans le dilettantisme. Il n'y a rien de plus agaçant que le dilettantisme. Que le dilettantisme pour les travailleurs, pour les pauvres, pour ceux qui savent la valeur du temps et de voir qu'on perd son temps. Parce que dilettantisme, c'est ça, on perd son temps. Alors, on doit au contraire comprendre que le temps que Dieu nous a donné, et oui, c'est pour nous préparer à l'Eucharistie, par le travail. Et c'est par le travail que nous nous disposons. Alors, on comprend comment Jésus nous souligne que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Notre travail ne peut être ordonné à l'Eucharistie que s'il y a cette foi divine dans le Christ qui nous donne l'Eucharistie. Et nous ne pouvons recevoir le don de Dieu, l'Eucharistie, que dans cette foi divine dans le Christ qui nous donne l'Eucharistie. Le travail doit être enveloppé de cette attitude de croyant. Il faut qu'il y ait cette foi. Alors, à ce moment-là, il y a un lien qui nous permet de recevoir le don du Christ. Le peuple d'Israël réclame à ce moment-là un signe pour vraiment accepter ce que Jésus réclame. Ils ont complètement oublié le signe de la veille. Ils n'ont pas vu le signe tellement ils avaient envie de manger. C'est extraordinaire, ça. Et c'est aussi très significatif. Si on est tellement porté vers les biens sensibles, il n'y a plus aucun éveil de l'intelligence. Et on ne peut même plus remarquer les signes de Dieu. On n'est même plus capable, tellement on est porté par la concupiscence vers le bien sensible immédiat. Alors il réclame un signe. Et le signe, c'est très net, c'est que Jésus recommence le geste de la veille. Et c'est pour ça qu'ils disent « Nos pères ont mangé la manne au désert, selon ce qu'il se trouve écrit, il leur a donné à manger un pain venu du ciel. » Ils réclament comme s'ils avaient des droits à l'égard d'un geste de pure gratuité. Comme ils sont loin, n'est-ce pas, de cette gratuité de l'amour. Ils ne voient que leurs droits. Ils réclament. Et alors c'est là où Jésus commence son grand discours. en montrant que ce n'est pas Moïse qui donne le pain, c'est le Père. À remarquer cette expression si forte, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Et le pain de Dieu, c'est Jésus. C'est la première révélation qui nous est faite. Le pain de Dieu, c'est Jésus lui-même. Le mystère de l'incarnation, le mystère du Verbe devenu chair, nous fait comprendre comment Dieu devient le pain. C'est-à-dire que par l'incarnation, il nous montre qu'il est totalement donné à chacun d'entre nous et qu'il se donne en plénitude comme le pain qui est totalement donné et qui ne garde rien pour lui. Par le mystère de l'incarnation, Dieu se donne pleinement et totalement. Dieu se donne jusqu'au bout, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il se donne sans partage. Il est le pain de Dieu. Il est le pain du Père. C'est un des aspects peut-être que la théologie traditionnelle a laissé un peu tomber. C'est pas étonnant du reste. Et ce serait très intéressant de bien comprendre pourquoi. Parce que nous pensons tout de suite, quand nous parlons du pain, de l'Eucharistie. Et vous voyez que Jésus veut, en premier lieu, se présenter lui-même comme le pain de vie, comme le pain du Père. Le pain de Dieu, c'est Jésus. Je suis le pain de vie. Seigneur, donne-le-nous toujours ce pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus lui dit, moi, je suis le pain de vie. Vous voyez, avant le mystère de l'Eucharistie, il y a le mystère du pain de vie. Et le mystère du pain de vie, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui se présente à nous. C'est Jésus qui nous révèle ce qu'il est. Il est le pain de Dieu. Et ce pain de Dieu est source de vie pour les hommes. C'est tout le mystère de l'incarnation ordonné au mystère de la rédemption. Je crois que c'est cela, ce mystère du pain de vie. C'est le mystère de l'agneau. C'est Jésus agneau qui est vraiment ce pain. Jésus offert. Et mais il est le pain du Père. C'est-à-dire qu'il est tout entier relatif au Père. Le pain, c'est la nourriture tout entière relative à celui qui s'en nourrit. C'est l'aliment par excellence, tout entier relatif au vivant. Il est pour le vivant. Et le vivant, c'est le Père. Et il est tout entier relatif au Père. Il est pour le Père. Et c'est pour ça qu'il est le pain de Dieu. Il est le pain qui vient de Dieu et il est le pain de Dieu. Et donc tout entier relatif au Père. Le Père se nourrit de son Fils. Le Fils vient du Père et le Fils est tout entier tourné vers le Père. Il est pour le Père. C'est bien ce qui nous fait ce que le mystère de la croix nous fait comprendre. Puisque par la croix, il glorifie le Père. Et comment le Fils glorifie-t-il le Père? en étant tout entier tourné vers le Père. On ne glorifie quelqu'un que dans la mesure où on est tout entier tourné vers lui. Tout entier tourné vers lui et tout entier pour lui. Entièrement remis à lui pour qu'il puisse se servir de lui comme on se sert du pain. Et c'est vrai que le mystère de la croix, premièrement, glorifie le Père et ensuite nous sauve. Et donc nous retrouvons bien le même ordre. Hein. Il est le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Mais il est tout entier relatif au Père, comme pain de Dieu. C'est la première grande affirmation que Jésus nous fait de lui-même. Il ne l'a pas encore dit, selon l'évangile de saint Jean. Et ça, c'est tout à fait propre à l'évangile de Jean. C'est tout à fait caractéristique à l'évangile de Jean. Cherchez-le dans les synoptiques. Il y a là comme une révélation toute particulière que nous devons aimer et contempler pour en découvrir toute la richesse. Le pain se donne dans le silence. Il est pour le vivant, pour que le vivant puisse s'en nourrir, pour que le vivant puisse n'être plus qu'un avec le pain dont il s'est nourri. Et Jésus, ensuite, en dernier lieu, après avoir affirmé qu'il était le pain de vie et que ce pain, c'est le Père qui le donne, tout ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. C'est au chapitre 5 où notre Seigneur le dit. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Si le Père donne le pain, le Fils va donner le pain. Ça ne peut pas être autrement. Et le pain qu'il donne, c'est sa propre chair en nourriture. Et par là, il nous introduit à recevoir le pain du Père. Si Jésus fait le même geste que le Père, donner le pain, il nous donne sa chair en nourriture. Et il nous dit, avec une netteté extraordinaire, au milieu d'un murmure. Vous voyez que ça continue. Le chapitre 7, hein, le chapitre 6 nous montre bien ce murmure. Les Juifs murmuraient donc à son sujet parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». Et Jésus leur dit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui l'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vérité, à la vie éternelle, moi je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mange ne meurt pas. Moi, je suis le pain de vie, le vrai pain, le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs disputez donc entre eux. Comment, disait-il, cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus donc leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra lui aussi par moi. Et le Père Feuillet souligne qu'il faut dire « par » et « pour ». Si on veut traduire parfaitement le grec, le « dia », c'est « par » et « pour ». Et je crois que c'est très juste. Hein. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père et pour le Père, ainsi celui qui me consomme vivra lui aussi par moi et pour moi. Tel est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra à jamais. Vous voyez, il faut saisir le mouvement même de cet enseignement prophétique. Tout part de cette grande révélation, je suis le pain de vie. Et tout nous conduit à l'Eucharistie. Je peux donc dire, hein, si j'essaie de réfléchir un peu et d'entrer dans cet enseignement de Jésus qui m'est donné, il est pour nous, hein, et il est pour chacun d'entre nous. Et il nous éclaire sur la théologie de l'Eucharistie. Il nous donne la grande lumière sur la théologie de l'Eucharistie. Le mystère de l'Eucharistie est donc éclairé par l'affirmation « Je suis le pain de vie ». Et si l'Eucharistie est éclairée par cette affirmation, je peux dire que le mystère de l'Eucharistie me conduit à Jésus, pain de vie. Et le mystère de l'Eucharistie qui doit me faire vivre par Jésus, pain de vie, et pour Jésus, pain de vie, me permet d'être avec Jésus et comme lui, pain du Père. C'est-à-dire tout entier tourné vers le Père. Si nous ne voyons pas ça, nous risquons toujours de rester, voyez, au côté pratique du sacrement. Et nous n'avons pas un regard contemplatif du sacrement. Et c'est ce que nous devons essayer, d'avoir un regard contemplatif du sacrement. Jésus ne nous donne cette contemplation que pour le mystère de l'Eucharistie. Mais là, il nous le donne. Et nous devons comprendre que ce n'est pas suffisant de croire dans l'Eucharistie, de vivre du sacrement de l'Eucharistie comme d'un sacrement. Il y a quelque chose de particulier dans le sacrement de l'Eucharistie. Puisque c'est le sacrement de l'amour, c'est donc le sacrement de la contemplation. Ça ne peut pas être autrement, puisque l'amour de Dieu est contemplatif. C'est donc le sacrement de la contemplation, c'est donc le sacrement qui nous introduit dans la contemplation. Si nous n'entrons pas plus vite dans la contemplation, c'est parce que nous ne vivons pas assez de l'Eucharistie. C'est parce que l'Eucharistie, nous en vivons d'une façon pratique, sans du tout vivre ce qu'est ce mystère. Et Jésus lui-même nous y introduit. Jésus lui-même nous fait saisir. Comment nous devons regarder l'Eucharistie comme lui-même le regarde, comme lui-même a cette vision sur ce mystère, sur ce pain de vie qu'il nous donne, qui est sa chair et son sang. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est le Fils qui institue les sacrements. C'est le Fils qui réalise le sacrement de l'Eucharistie. Et il le fait dans l'obéissance au Père. Et il le fait en contemplant le Père. Et le sacrement de l'Eucharistie, il nous le donne pour que nous-mêmes, par lui, nous puissions contempler le Père. Nous puissions entrer dans sa contemplation du Père. Et c'est pour ça que Jésus nous souligne, hein, il le dit lui-même, que celui qui, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père et pour le Père, je suis le pain du Père. Par et pour. Ainsi celui qui me mange vivra lui aussi par et pour moi. C'est merveilleux de voir ce mouvement de retour vers le Père par Jésus, pain de vie. Jésus qui se donne à nous dans l'Eucharistie, c'est un moyen divin lié à la source, inséparablement lié de la source. Et la source, c'est Jésus, pain de vie. Et par là, nous entrons vers le regard vers le Père. L'Eucharistie nous fait regarder le Père. C'est le sacrement de l'action de grâce par rapport au Père, puisque c'est le Père qui donne le pain. Et donc, c'est le Père qui nous donnant le pain, Jésus, et par Jésus, qui lui nous donne l'Eucharistie nous est donnée par le Père. Et l'Eucharistie nous apprend à vivre comme Jésus, et avec lui, et en lui, du mystère du Père. Il faut que nous demandions cette grâce. Et vous voyez, c'est dans l'évangile de Saint Jean. C'est donc quelque chose que nous devons aimer particulièrement. C'est une grâce que nous devons recevoir pleinement et totalement. Et qui nous fait découvrir comment, à partir du travail, ce qu'il y a de plus humain dans notre vie, un travail réalisé dans la foi, dans cette foi dans le Christ qui nous sauve. Nous devons remonter jusqu'au Père par le mystère de l'Eucharistie. Et par l'Eucharistie, ce retour vers le Père est immédiat à travers Jésus, pain de vie, qui lui-même est totalement tourné vers le Père et contemple le Père. Le mystère de l'Eucharistie apparaît donc comme le mystère par excellence de notre filiation d'amour. C'est le mystère par excellence qui nous fait découvrir que nous sommes des fils bien-aimés, en qui le Père a mis toutes ses complaisances, puisqu'il veut que nous ayons le même pain que lui, qui est son Fils. Et c'est par là qu'il nous montre, qu'il nous donne tout ce qu'il a et qu'il met en nous toutes ses complaisances. Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde à jamais.
Amen.